Allez, la question d'argent de la semaine, justement. Soyons précis, messieurs et mesdames les gérants, dans cette phase de marché, quel secteur sur les actions faut-il privilégier, Pascal ?
Moi, je veux juste dire, juste avant de parler de ça, je veux juste très vite, parce que c'est important. Les marchés, oui, je vais vous répondre. Les marchés sont aussi montés sur des revalorisations des prix, en fait, des cours. Pas forcément sur la croissance des bénéfices. Ça va être important. Et quand on regarde le marché européen, on est, en termes de valorisation, sous les moyennes historiques à 8 ans. Et donc, c'est intéressant parce que c'est encore sous-valorisé. Donc ça, c'est un point important.
Par rapport à leurs résultats.
Exact. Et en plus, l'euro devrait monter par rapport au dollar, ce qui est aussi intéressant pour des investisseurs européens. Pour répondre à votre question...
Là, je suis prêt à prendre un pari. Je ne suis pas convaincu que l'euro devrait remonter.
Je suis prête à prendre le pari aussi. Moi, j'en suis intimement convaincue. Ne serait-ce que, j'en parlais tout à l'heure, la désynchronisation des banques centrales qui va finir par arriver, puisqu'on a au moins 6 mois de retard. Et comme on l'a dit, l'inflation étant différente en Europe, il y a des chances pour que ça dure encore plus longtemps. Okay. Et donc peut-être moins d'inflation importante. Les secteurs, je réponds à la question. Je vous en ai listé 6, parce que vous voyez, j'ai travaillé pour vous.
Comme d'hab.
Vous m'avez demandé d'être précise. Donc en gros, pour les valeurs qui bénéficient de la détente sur les taux, parce que ça a un effet positif sur leur valorisation, la tech.
Okay.
Je pourrais vous faire un quiz, d'ailleurs.
Non, c'est bon.
Les valeurs très décotées qui bénéficient aussi de la détente sur les taux, et très décotées, les foncières, on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, c'est des niveaux de valorisation qui sont vraiment très attractifs. Donc, foncières cotées.
Sébastien nous dit, faites attention à l'immobilier quand même.
Oui, mais c'est vrai que les foncières, l'immobilier physique n'a pas encore baissé, les foncières en bourse ont déjà intégré cette
possibilité. Ils sont bons, bonne réponse.
Massacré en plus.
Bonne réponse au quiz.
Les valeurs qui bénéficient d'un environnement de taux plus élevé et de valorisation attractive, ça, c'est les valeurs bancaires.
Les banques.
Voilà. Les valeurs exposées à la Chine.
Ouais, ça c'est facile.
Le luxe.
Pas que.
Entre autres. C'est la première à laquelle, premier secteur auquel on pense quand même. Après, ce que moi j'appelle les valeurs incontournables, parce qu'il y a une telle position dominante, notamment les semi-conducteurs, on ne peut pas s'en passer. Quoi qu'il arrive, je dirais, dans l'environnement macro, mais c'est volatile. Donc en plus, là c'est bien monté. Et le dernier, du rendement et une valo qui reste attractive, c'est l'énergie. Malgré tout, c'est intéressant aussi. Voilà, moi, mes 6 secteurs de prédilection sur l'année.
Sébastien Corchia, même question, réponse précise.
Oh, presque même réponse.
Ah non, vous n'avez pas le droit de copier sur votre voisin.
Mais la copie était quand même très complète et presque parfaite ou parfaite.
Merci.
C'est-à-dire que le secteur, effectivement, de l'énergie, des secteurs de l'énergie et des banques, est un secteur dont le monde value, c'est-à-dire quand les taux sont sur ces pentes-là, c'est un secteur qui reste intéressant.
Mais on a le marché, il va là-dedans.
Bah, on n'a plus le droit.
C'est pour ça que je vous ai chauffé là. On n'a plus le droit.
On peut toujours. Après, ça dépend les produits, ça dépend les gestions. Et puis, individuellement, les gens peuvent toujours acheter. En tout cas, ça fait partie des indices et de l'indice CAC 40, notamment. C'est vrai que tout ce qui est lié à la Chine reste intéressant. Je mettrai un bémol en termes de valorisation quand même sur le luxe. Et la Chine, faudra voir finalement si c'est une réouverture puis une relance, ou si c'est une réouverture et on dope un peu la consommation. On n'a pas l'air d'aller plus vers de la relance, notamment parce que le marché de l'immobilier est complètement sinistré. Et donc, ça a des impacts sur les matières premières. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les matières premières ne s'envolent pas. C'est qu'elles ont un doute sur cet effet Chine.
Je reviens juste sur le luxe. À chaque fois qu'on dit prudence sur le luxe,
on se fait avoir.
On
se fait avoir. Mais
il y a un secteur, est-ce que c'est le seul secteur où les arbres peuvent monter jusqu'au ciel?
Non, jamais en bourse, les arbres ne montent jusqu'au ciel.
C'est un secteur qui a un atout considérable, c'est le pricing power.
Oui.
Il a quand même une limite
pour tout. Et puis, quand vous faites du luxe à échelle planétaire, au bout d'un moment, quand tout le monde a le produit, quelle est la définition du luxe, en fait, quand il devient si massif? Mais au-delà de ça...
C'est philosophe. Est-ce que le luxe, c'est la rareté ou est-ce que c'est la qualité?
Exactement. La deuxième chose, mais vous avez d'autres proxys. Les compagnies aériennes, par exemple, prenez Deutsche Lufthansa, qui est très aligné avec la Chine. C'est d'autres façons de jouer la Chine. La réponse que je ferai, c'est de dire attention, les marchés dans cette première phase ont été, comme d'habitude, je choisis une façon d'opérer. Donc les cycliques, les bancaires, je vends les défensives et puis j'essaie 2-3 trucs à côté. Ils peuvent être tentés à des moments de faire des arbitrages un peu violents et de prendre leurs bénéfices. Et donc il faut pas, comme toujours, il faut regarder un peu ce qui a baissé si ou n'a pas monté, si c'est pas excessif.
Et qu'est-ce qu'il y a ?
Les valeurs de santé, par exemple, qui sont restées à l'écart, les valeurs de la distribution, dont on a pu voir cette semaine, par exemple, que Carrefour avait finalement pas trop mal publié. Donc faut pas être comme on a pu être avant, c'est-à-dire on regarde qu'un côté de la côte et puis on jette tout le reste. Je pense que l'année va être longue et compliquée, y compris sur les taux.
Comme toujours, non
et, oui, comme toujours, mais là, on est arrivé à un niveau où finalement, c'était presque l'objectif pour la plupart des...
Oui,
des,
largement au-dessus même.
Largement, dividende inclus, au 31 décembre, et on est fin février. Donc il va falloir être beaucoup plus sélectif. Je rajouterais juste une chose. Tout le monde a à peu près dit que cette année, ça serait sûrement l'année des small caps, des petites et des moyennes valeurs. Ça a démarré, mais doucement. C'est un indicateur intéressant. Ça montre que le marché n'est pas pleine balle quand même. Parce que quand le marché est très positif, il va tout de suite vers les petites et les moyennes valeurs. Pour l'instant, il n'y a pas été. Et là, il y a quelque chose peut-être à faire en se disant, allez, c'est pas plus idiot de faire ça que les autres. Il y a des valorisations historiques, des petites contre les grandes, qui sont très en retard et qui sont sur des niveaux relatifs de 2008, par exemple.
Intéressant. Quel est le mot de la semaine pour vous, Anne-Sophie ?
La résistance du marché de l'emploi, on en a pas mal parlé, États-Unis, mais aussi en France, hein, même si on s'attend cette année à avoir
en Europe,
une augmentation un petit peu légère, hein, mais on restera en dessous des 8%. Alors pour la France, la difficulté, on l'a dit, hein, c'est toujours le chômage chez les moins de 25 ans et sur les plus de 55 ans. Hein. Le gouvernement essaie d'aller avec les réformes, mais ça mettra beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est de bons chiffres. Il faut quand même rappeler qu'on n'est pas aussi au plein emploi. Hein. On n'est pas aux 4-5% allemands ou américains. Donc il y a encore une marge de manœuvre, mais on peut dire quand même
que l'emploi... Des belles performances en zone euro quand même, hein, avec 3,7 millions de nouveaux emplois par rapport à fin 2019. C'est quand même assez spectaculaire. Sébastien, le mot de la semaine pour vous ?
Le mot de la semaine, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le rallye le plus détesté. Ouais. Et alors on appelle ça aussi dans notre jargon le pain trade, le trade de la souffrance en fait, parce qu'il fait mal, aussi mal qu'un crack baissier. Hein, c'est une sorte de crack haussier. Et le mot qui va avec, généralement, qu'on ressort, c'est le mot FOMO, fear of missing out, c'est-à-dire je suis obligé d'acheter parce que même si je ne comprends pas, je suis obligé d'y aller. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'argent dans ces marchés qui attendaient au 31 décembre que la bourse baisse, qu'il y a une présence de gérants qui se sent oppressés en fait d'aller acheter le marché et cet effet FOMO qui n'est jamais un bon conseiller comme de vendre dans un crack, on sent quand même que les gens ont le doigt sur le bouton, donc ça peut propulser un peu plus haut encore les marchés avant qu'il y ait une sorte de correction.
Pascal.
Mon mot de la semaine, c'est ChatGPT. Je pense que vous tous savez ce que c'est,
mais
ceux qui nous écoutent, pas forcément. Donc, c'est un robot conversationnel qui a été créé par une société qui s'appelle OpenAI. Et en gros, ils l'ont lancé en novembre. Il y a déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Pourquoi j'avais envie d'en parler ? Parce que, au-delà du fait que ça peut quand même avoir des effets très effrayants, comme détruire un certain nombre d'emplois, il y a aussi des effets vertueux qui sont intéressants. Mais surtout, ça peut être un vrai game changer pour les GAFAM les plus importantes. Puisqu'en gros, Microsoft est en train de mettre, ou a mis d'ailleurs, l'outil à disposition dans son moteur de recherche, ce qui a quand même largement distancé Google, qui lui a en plus fait une démonstration d'un peu du même outil qui a été un peu catastrophique parce qu'il y avait des erreurs. Et ça peut permettre à Microsoft de gagner de très fortes parts de marché dans un domaine qui est ultra compétitif. Donc je pense que c'est à observer de très près dans les prochaines années.
Emmanuel Le Chypre. C'est vacances.
Je lui ai fait peur. J'adore être plongé dans la vie des marchés.
Non, capitalisation, parce que je regrette chaque jour quand on entend tous les débats sur la retraite que
on en parle pas
sans idéologie aucune, on se dise pas et si on mettait une petite dose finalement de capitalisation dans tout ça plutôt que de se dire ce qu'on voit c'est qu'avec la seule répartition
une des gauches à la base.
Bien sûr, rappelez-vous, Jaurès effectivement encourageait la capitalisation et on se dit franchement tous ces débats sur les profits exagérés de Total, de LVMH, on se dit finalement si tout le monde en profitait un petit peu, ce serait a priori pas absurde, sans pour autant basculer d'un système vers un autre. Et donc ça rejoint cette idée que je trouve que cette réforme des retraites, c'est des discussions d'il y a 30 ans de part et d'autre. C'est-à-dire que du côté des promoteurs de la réforme, c'est des solutions d'il y a 30 ans, et des côtés des détracteurs de la réforme, c'est des solutions d'il y a 50 ans. Et je comprends la frustration des gens sur finalement ce débat.
On n'a pas le temps d'en parler, mais les Français ont opté quand même pour la retraite par capitalisation parce que quand on a un taux d'épargne, on a parlé avec Anne-Sophie qui est autour de 16%, c'est qu'en fait ils ont déjà...
Mais Marc, c'est là où c'est révoltant.
Le PER, c'est de la retraite
par capitalisation. C'est que c'est de la capitalisation hypocrite.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens...
Mais massive.
Ceux qui ont les moyens, bien sûr, le PER 6 millions, la capitalisation c'est de l'immobilier, etc. Et les cocus dans l'histoire, c'est les plus modestes qui vont se retrouver avec une retraite par répartition faible. Et ça, c'est quand même déplorable.